France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Qualifiée par Albert Einstein de femme scientifique la plus importante du XXe siècle, Lise Meitner a fait l'une des découvertes les plus marquantes du siècle dernier, la fission nucléaire. Femme juive dans l'Allemagne nazie, Lise Meitner est une aventurière de l'atome. En 1938, elle démontre que les noyaux lourds peuvent se briser et provoquer d'autres fissions. C'est un premier pas vers la création de l'arme nucléaire. Mais fondamentalement pacifiste, la physico-chimiste a refusé de prendre part au projet Manhattan. Au cours de sa vie, elle a été nominée des dizaines de fois pour le prix Nobel sans jamais le recevoir. Pas même celui de 1945, le prix Nobel de chimie qui a récompensé son collègue masculin pour leurs travaux sur la découverte de la fission. Lise Meitner, une Nobel qui n'a pas de prix. Bonjour Camilla Maiani.
Bonjour.
Vous êtes physicienne et responsable de la médiation au Musée Curie. Nous sommes en ligne également avec Brigitte Van Tingelen. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes historienne des sciences, directrice des affaires internationales du Science History Institute basé à Philadelphie. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là, au rendez-vous, à l'écoute, en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la découverte de la fission nucléaire est-elle arrivée dans le parcours de Lise Meitner? Sur quoi repose ce principe et comment a-t-il été par la suite exploité pour fabriquer la bombe atomique? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Camilla Maiani, Albert Einstein disait aussi qu'elle était la Marie Curie allemande. Pourquoi ça?
Alors j'ai l'impression qu'on a dit ça de toutes les femmes scientifiques qui ont eu du succès dans leur carrière. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, il suffit de regarder les photos des congrès Solvay, donc ces grands congrès qui avaient lieu avec toute la crème de la science de l'époque. Il n'y a jamais beaucoup de femmes. Alors d'abord, il n'y a que Marie Curie. Après, Lise Meitner apparaît avec Irène Curie. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres comparatifs possibles pour Lise Meitner.
Brigitte Van Tingelen, quelle est l'importance scientifique de ce personnage historique?
Alors, Natacha, c'est un personnage tout à fait fascinant et aussi, je dirais, une personnalité très attachante, qui a vécu dans des moments extrêmement difficiles du point de vue moral et qui a pu chaque fois garder un compas moral vraiment très, très clair dans des temps exacerbés. Donc je pense qu'il y a même une leçon pour nos temps présents.
On va voir en effet son parcours et j'aime bien commencer par le commencement, Brigitte Van Tingelen. Lise Meitner est née à Vienne en 1878 dans une famille juive. Elle est très tôt attirée par les sciences, les mathématiques.
En effet, le contexte n'est pas une simple coïncidence. Elle naît dans une famille juive, non pratiquante, mais juive, dans laquelle la valeur de l'éducation est portée très haute. Tous les enfants, aussi bien garçons que filles, sont encouragés à poursuivre une éducation et à avoir des passions intellectuelles. Il se fait que chez Lise Meitner, c'est la science, mais ce sont aussi les mathématiques. Et à l'époque, les femmes ont un accès difficile à l'université, difficile pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas un choix qui va de soi pour une jeune femme, mais aussi il n'y a pas d'éducation secondaire qui prépare à l'université. Donc il faut vraiment acquérir cette éducation dans des écoles ou dans des cursus privés. Ce qui fait qu'elle commence l'université à un âge que nous trouverions vraiment tardif, c'est-à-dire 22 ans. Ah. Et donc elle commence mathématiques, chimie, physique, biologie. Et un de ses professeurs l'impressionne au plus haut point. Il s'agit de Ludwig Boltzmann, un très grand physicien, dont les cours étaient, paraît-il, très, très passionnants, qui a aussi une personnalité très attachante et qui vraiment garde toute l'attention de Lise Meitner, qui s'appelle en fait au départ Élise, et qui décide à ce moment-là de se spécialiser en physique.
Au cours d'une conférence qu'elle a faite à Vienne le 20 septembre 1963, Lise Meitner a 85 ans et voici comment elle raconte ses débuts, sa carrière. Je pense que tous les jeunes se demandent à quoi ils aimeraient que leur vie aboutit. Lorsque, encore jeune, je me posais cette question, j'arrivais toujours à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire que la vie soit facile, à condition qu'elle ne soit pas vide. Ce vœu a été pleinement exaucé. Si ma vie n'a pas été facile, c'est bien à cause de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et de leurs conséquences. Si elle a été bien remplie, je le dois au prodigieux développement de la physique dont j'ai été témoin, ainsi qu'au savant d'une personnalité si attachante qu'il m'a été donné de rencontrer au cours de mes travaux de physique. Très jeune, j'avais des dispositions pour les mathématiques et la physique, mais je ne me suis pas mise aux études de bonne heure. Les obstacles que j'ai rencontrés sur ma route ont été les idées de l'époque sur l'éducation des jeunes filles et les conditions spéciales qui régnaient alors à Vienne, ma ville natale. Voilà un témoignage publié dans le bulletin de l'AIEA. Camilla Maiani, en 1906, Lise Meitner est la seconde femme à obtenir un doctorat à l'université de Vienne. Quelle est la place des femmes dans les universités, les laboratoires scientifiques à cette époque ?
Alors, c'est une place qui est en train de changer très vite à la fin du 19e siècle parce que on a des besoins, on a une industrie chimique, notamment si on est dans le domaine de, chimie physique, dans le domaine scientifique, qui a besoin de personnes qui travaillent, qui soient compétentes. Et on est quand même dans une Europe très différente de celle qu'on connaît, avec très peu de personnes, avec un niveau, universitaire, capable de rentrer dans ces laboratoires. Bien sûr, il y a quand même une sélection, hein, comme le disait ma collègue, sur leur origine sociale. C'est-à-dire, ce sont prioritairement des femmes de la bourgeoisie intellectuelle qui ont des parents qui les ont encouragées à étudier, donc souvent des pères et ou des mères scientifiques. Et quand vous me demandiez le parallèle entre Lise Meitner et Marie Curie, ça c'est le premier parallèle, hein. Marie Sklodowska vient d'une famille qui est un peu le miroir de celle de Meitner, sans être juive bien sûr, mais donc c'est une période de changement où bien sûr la place des femmes dans les universités, dans les laboratoires est limitée, mais il y a quelque chose qui change.
Il y a quelque chose qui change, parce qu'en effet, on a Lise Meitner qui arrive en 1907 à l'université de Berlin. Max Planck lui fait une exception, il lui fait une place pour suivre ses cours. Elle va ensuite faire à ce moment-là une rencontre déterminante, Brigitte van Tingelen. Lise Meitner va rencontrer le chimiste Otto Hahn. Ça, c'est peut-être la rencontre de sa vie. Ils vont travailler ensemble 30 ans.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une rencontre de deux collègues et d'amitié. Donc, ce n'est pas une rencontre amoureuse, pour continuer le parallèle entre Pierre et Marie Curie. Et donc, ils vont collaborer pendant 30 ans, comme vous dites. Juste une petite chose à propos de Max Planck. Il faut savoir que Max Planck n'était pas particulièrement favorable à l'accession des femmes à l'université ou dans les laboratoires, mais qu'il était prêt à des exceptions qui étaient évidemment soutenues par la qualité des candidates. Donc, dans le cas de Lise Meitner, elle arrive soutenue par un collègue qu'il connaît bien. Donc, non seulement elle a travaillé avec Boltzmann, mais elle a aussi travaillé avec Stefan Meyer, qui l'a entraînée et l'a éduquée à la radioactivité. Donc, elle vient avec des lettres de créance, si vous voulez. Et effectivement, Otto Hahn, tout jeune, chimiste, elle, physicienne, cherche à collaborer dans le domaine nouveau, presque nouveau, de la radioactivité, en mettant des regards croisés, si vous voulez, sur le phénomène de la radioactivité. Et ce sera une collaboration très loyale. Ça, c'est très important du point de vue de Lise Meitner. Et ce sera une collaboration extrêmement riche du point de vue scientifique, avec énormément de publications. On parle de la fission, mais en réalité, il y a plusieurs vies, je dirais, de travail scientifique qu'ils partagent.
en effet un grand nombre d'articles, puisqu'en 1922, Lise Meitner devient maître de conférence à l'université de Berlin, la première femme à enseigner la physique dans cette université, et elle a à ce moment-là publié plus de 40 articles qui sont considérés, et elle est considérée déjà comme une experte mondiale dès 1922. À ce moment-là, donc Otto Hahn et Lise Meitner se sont donc tournés vers la radioactivité. Quelles sont nos connaissances de ce jeune récent domaine à cette époque, Camilla Maiani?
Donc à la fin du 19e, Henri Becquerel a découvert l'existence de la radioactivité. Marie et Pierre Curie très vite vont découvrir deux éléments chimiques radioactifs, le polonium et le radium, qui sont très rares sur Terre mais extrêmement radioactifs et donc qui donnent toute l'importance au phénomène de la radioactivité. Et si on va jusqu'aux années 20, il y a plusieurs choses qui se sont passées. On a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène du point de vue physique. On a commencé à identifier les rayonnements invisibles qui sont de trois types. La radioactivité est déjà utilisée, alors on pense souvent aux applications, mais en fait si on reste dans le laboratoire, elle est déjà utilisée pour sonder la matière. Et donc ça a donné un peu le début de toute la physique atomique, voilà, l'étude de la matière à partir de la célèbre expérience de Rutherford et de la feuille d'or, où il va comprendre que l'atome est en réalité composé principalement de vide. Il le fait avec des rayonnements alpha issus d'une source de radium. Donc la radioactivité commence à être un peu plus comprise, et puis on s'acharne dans les différents laboratoires à trouver de nouveaux éléments chimiques radioactifs, à purifier ces éléments, en même temps que dans l'industrie, on va faire de l'extraction industrielle du radium. Alors là, on est dans les années 20, à peu près.
Trouver des nouveaux éléments, c'est ce que vont faire Otto Hahn et Lise Meitner. Ils découvrent notamment trois nouveaux radio-éléments de courte période, et notamment, Brigitte Van Tiegelen, le fameux protactinium. Là, on est en 1918.
Oui, donc... Lise Meitner, non seulement a été maître de conférence dans une université berlinoise, mais elle a aussi suivi Otto Hahn au moment où une institution très très importante du point de vue scientifique est fondée en Allemagne, le Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la société Kaiser Wilhelm. Et un des premiers instituts qui est fondé, celui de chimie, accueille immédiatement un laboratoire de radiochimie. Otto Hahn, l'homme du duo, est catapulté comme chef de laboratoire. Lise Meitner y aura après un rôle, mais plus tardif, si je puis dire. Et c'est là qu'ils investiguent toute une série de chaînes de désintégration radioactive qui, jusqu'à la conception de l'isotope, faisait se multiplier les nouveaux éléments, ou ce qui semblait être de nouveaux éléments. En d'autres termes, lors des désintégrations radioactives, des éléments de masse nucléaire très précise sont formés, et comme ils sont reconnus par leurs propriétés radioactives, parfois de très courte durée, on n'a pas toujours le temps de les identifier comme des éléments chimiques que l'on connaît déjà dans le tableau périodique. Le résultat des courses, c'est qu'on se trouve tout d'un coup avec beaucoup plus d'éléments nouveaux que de place dans le tableau périodique. Et c'est seulement avec la notion de l'isotope qui émerge en 1913 qu'un certain travail d'organisation se fait, et entre autres, un de ces éléments qui apparaît dans les désintégrations radioactives, c'est un certain isotope du protactinium en 1913 observé par Casimir Fajan, mais de très très courte durée, impossible d'en faire la chimie, et ce n'est que 4 à 5 ans plus tard, que Lise Meitner et Otto Hahn publient la découverte d'un isotope de temps de vie beaucoup plus long et qui sera appelé le protactinium. À noter qu'il est reconnu, ce protactinium, comme élément chimique par l'Union internationale de physique pure et appliquée qu'en 1949.
Le protactinium, qui est l'élément qui précède l'actinium dans le tableau périodique, d'où son nom. Alors comment Lise Meitner va-t-elle découvrir la fission nucléaire? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Camilla Mayani et Brigitte Van Tiggelen, nous parlons d'une figure historique de l'histoire des sciences, Lise Meitner, née en 1878, morte en 1968. On vient de parler des tout débuts de cette physicienne chimiste, de sa découverte du protactinium en 1918. Brigitte Van Tiggelen, juste après, elle publie un article sur la libération d'un électron après un bombardement d'un atome par rayonnement ionisant. Que découvre Lise Meitner dans cet article ?
Alors, en fait, elle ne sait pas qu'elle a proposé un effet qui va porter le nom d'un autre physicien, Pierre Auger, qui permet de comprendre la réorganisation du noyau et donc, en fait, les phénomènes de transmutation qu'on a appelé très longtemps l'effet Auger. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que cette publication ne se concentre pas du tout sur une découverte. Elle décrit et décrit mathématiquement la possibilité d'un effet qui peut être qui peut rendre compréhensible le phénomène de transmutation. Ce n'est qu'un an plus tard que Pierre Auger l'observe et c'est ainsi que l'effet reçoit le nom de Pierre Auger. Et ce qui est encore plus amusant, si je puis dire, c'est qu'on appelle aujourd'hui cet effet l'effet Auger-Meitner. C'est une décision qui a été prise très récemment, en 2021, par l'Union radioscientifique internationale, sur base précisément d'un réexamen des travaux de Lise Meitner.
Voilà, et on reviendra évidemment sur l'importance et sur, en effet, le sens. Pourquoi nommer des noms ce type de découverte? Et on reviendra sur ces questions-là, évidemment, plutôt en fin d'émission, puisque là, on continue le fil de cette histoire. On était donc là au début des années 20. Je pense à la découverte du neutron, 1932, 1933, 1937. Camilla Mayani, on est à un moment où les recherches et les avancées en physique nucléaire se développent à pas de géant.
Oui. Alors, effectivement, moi, la chronologie pourrait commencer à la fin du 19e, évidemment, la découverte de la radioactivité, mais 32, la découverte du neutron est un moment important. Et il y a un deuxième moment important dans cette course qui va arriver jusqu'à la fission. C'est 1934, la découverte de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie, qui vont montrer que, en utilisant les particules alpha du polonium, en bombardant de la matière, eh ben, en fait, ils peuvent la faire la transformer, hein. C'est les transmutations dont parlait tout à l'heure Madame Van Tiggelen, ça on le savait, mais on peut parfois tomber sur des atomes radioactifs. Et ça c'est nouveau, probablement ça avait déjà été fait en laboratoire, mais en tout cas c'était un impensé scientifique et c'est les premiers qui s'en rendent compte. Et à la suite de ça, il y a un physicien italien très célèbre aussi, Enrico Fermi, parce que je suis italienne, qui la même année se met à faire donc cette opération-là, de bombarder la matière systématiquement en prenant tous les éléments du tableau périodique. Alors lui, il utilise les neutrons, d'où l'importance de la découverte des neutrons, parce qu'il comprend très vite qu'ils vont avoir plus facilement accès au noyau atomique, puisqu'ils sont neutres électriquement et que le noyau atomique est chargé positivement. Donc eux, ils n'ont pas la force qui repousse, la force de Coulomb qui repousse. Et lui, il va faire comme ça tous les éléments du tableau périodique qu'il a sous la main, jusqu'à arriver à l'uranium, de poids atomique 92, c'est le nombre de protons de son noyau, l'uranium, qui est le plus lourd élément connu à l'époque. Et là, il se passe quelque chose d'un peu différent. Je continue. Donc, ce qui va se passer, c'est que... on revient un petit peu à ce qu'on disait pour le proactinium. Il faut s'imaginer, des bouillons chimiques où il y a énormément d'éléments en même temps, des phénomènes qui se passent qui ne sont pas clairs à interpréter. Et donc, Fermi, il a des techniques, il utilise des techniques chimiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il produit avec ce bombardement de l'uranium, en s'attendant à ce que les réactions nucléaires qui sont provoquées par les neutrons le déplace un tout petit peu sur le tableau périodique, mais qu'il ne puisse pas aller trop loin. Normalement, les réactions nucléaires vont changer de 1 à 2 protons dans le noyau à la fois. Et il va vérifier que dans son bouillon, il ne trouve aucun des éléments en dessous de l'uranium dans le tableau périodique des éléments. Et donc, il en déduit que forcément, il a produit un élément qui doit être au-dessus. Il va l'appeler l'élément 93, puisque l'uranium a 92 protons. Donc, il suppose que c'est l'élément à 93 protons. Et il appelle ça un élément transuranien.
J'aime beaucoup ce nom, transuranien. On voit bien que personne n'y comprend rien. Et donc, on a cette Lise Meitner et ce Otto Hahn qui sont lancés tous les deux dans le projet Uranium, basé sur les réactions nucléaires artificielles. Brigitte Van Tiegelen, on peut commencer à parler des expériences que ces deux chercheurs entreprennent ensemble. D'ailleurs, cette série d'expériences est soufflée par Lise Meitner. En quoi consiste-t-elle ? Concrètement, comment ça s'est passé ?
Donc, il faut bien s'imaginer qu'on est face à un certain nombre de groupes. Certainement, les Curie, Joliot-Curie à Paris, Fermi en Italie, Otto Hahn et Lise Meitner, qui tous travaillent fébrilement avec ces nouveaux outils qui devraient permettre de créer de nouveaux éléments plus lourds que l'uranium, donc des transuraniens. Et c'est un peu la course, la compétition entre eux. Une compétition qui est à la fois très, très ardue, très, très vive, mais qui en même temps crée une sorte de communauté très, très soudée. Du point de vue épistémologique, c'est-à-dire qu'ils partagent un certain nombre de postulats et de compréhension des phénomènes. Et donc, Otto Hahn, comme les Curie et les Joliot-Curie, comme Fermi, sont persuadés effectivement que quand on bombarde un gros noyau bien lourd, on ne va pas perturber le noyau beaucoup. On doit juste vérifier si les éléments qu'on trouve comme production de cette réaction nucléaire sont dans les alentours. Et en fait, il y a une grande critique, mais qui passe assez inaperçue malheureusement, de Ida Nodak, une chimiste allemande en 1934, qui lit le compte-rendu de Fermi, qui prétend qu'il a effectivement produit non seulement 93, donc 93, et 94, qu'il a même été jusqu'à nommer osmium et hésperium, donc il est vraiment très confiant. Donc cette chimiste, Ida Nodak, qui elle travaille aussi sur la production de nouveaux éléments, mais par des moyens complètement chimiques traditionnels, lui fait le reproche de ne pas avoir vérifié l'ensemble du tableau périodique, c'est-à-dire des éléments plus légers, qui auraient pu être produits lors de ce bombardement. Et donc, elle fait la suggestion que le noyau aurait pu se briser en plusieurs morceaux plus légers. Et pendant 4 ans, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que pendant 4 ans, toutes ces équipes, des gens vraiment très intelligents, qui maîtrisent bien leur sujet, mais qui maîtrisent leur sujet tellement bien qu'ils sont un peu enfermés dans leur pensée, ne peuvent pas imaginer que ce noyau, effectivement, subit une fission. Oui, alors, la suggestion est sur le côté, jusqu'au moment où, sur l'insistance de Meitner, d'ailleurs, qui n'était pas la chimiste du groupe Otto Hahn, Lise Meitner, elle insiste pour que Otto Hahn vérifie, malgré tout, ce qu'il y a dans les filtres de la réactions nucléaires qu'ils ont observées. Et finalement, c'est elle qui arrive à aller au-delà de l'impensée scientifique et qui suggère à Otto Hahn de revoir l'interprétation de son expérience et qui mène à la découverte de la fission.
Oui, voilà, parce que ce que fait Lise Meitner à ce moment-là, c'est qu'elle casse un dogme, et notamment celui de l'indivisibilité de l'atome.
Alors, ce qui était, voilà, c'est ça, je voulais revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à imaginer a posteriori. A posteriori, on se dit, bah oui, bien sûr, le noyau casse, ça fait des dizaines d'années qu'on l'enseigne à tous les étudiants de physique de l'université. Il y a un impossible en fait pour les physiciens. Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, on est vraiment dans un domaine qui est à cheval entre la physique et la chimie. Et on voit que l'impossibilité de cette cassure fait que les chimistes ne lisent pas leurs expériences comme ils pourraient en fait. Parce que voilà, parce qu'ils sont bloqués par cette vision physique. Et pendant longtemps, Meitner va refréner en fait, va cadrer. C'est vraiment un cadre théorique en fait qui bloque, ce qui arrive régulièrement en science, jusqu'au moment où la réalité de l'expérience ne peut plus être ignorée. Et là-dessus, juste avant Hahn et Strassmann et leur expérience épocale, il y a une expérience d'Irène Joliot-Curie et Pavel Savitch en 38 au laboratoire Curie, qui, par des procédés chimiques différents de ce qu'ils ont utilisé jusque-là, disent que ce qu'ils mesurent, donc un de ces éléments transuraniques, a vraiment exactement les mêmes caractéristiques du lanthane, qui est un élément qui a 57 protons, donc beaucoup, la moitié plus léger, hein, la louche. On voit où on veut en venir, mais eux, en fait, dans cet article, vraiment, ils voient pas ce que ça veut dire. Ils disent, il doit y avoir un élément transuranique qui est vraiment exactement comme le lanthane. Et Hahn et Strassmann réagissent à cette publication en disant d'abord, comme souvent ils se faisaient les uns les autres, hein, parce qu'il y avait quand même une certaine dose de compétition, c'est pas possible, ils se trompent. Donc c'est un point de départ intéressant, mais on voit vraiment cette incapacité à penser en dehors de ce cadre théorique, moi, je trouve.
Voilà, Otto Hahn, d'ailleurs, écrit Alice Mettner, puisque à ce moment-là, les deux travaillent ensemble à distance, par correspondance. Alice Mettner est interdite, au moment de, justement, l'Allemagne nazie, Alice Mettner fuit clandestinement. Elle part donc s'installer à Stockholm. À Stockholm, Otto Hahn lui écrit, est-ce que tu peux me proposer une explication formidable? On comprend pas. Elle imagine une explication, donc, à ces étranges mesures. Et pour compléter vos mots, voici ceux du physicien Louis de Broglie qui nous raconte la fission.
C'est tout de suite avant la guerre que nous avons un phénomène particulier de transmutation, de désintégration des noyaux d'atomes, qu'on a appelé la fission de l'uranium, a été découvert presque simultanément par M. Joliot en France et par un certain nombre de savants en Allemagne. Et ce phénomène particulier consiste en ceci, que le noyau de l'uranium, qui est l'atome le plus lourd que nous connaissions, se brise en deux parties à peu près égales lorsqu'il est frappé par des neutrons, c'est-à-dire par certaines particules que nous connaissons aujourd'hui qui sont électriquement neutres et qu'on appelle des neutrons. On s'est aperçu qu'au moment où se produit cette fission, le noyau qui se brise émet lui-même des neutrons qui sont comme des résidus de cette explosion violente qui se produit dans le noyau. De sorte que ces neutrons provoqués par la fission d'un noyau d'uranium peuvent provoquer d'autres fissions dans des noyaux voisins. Alors le phénomène de désintégration n'est plus limité à quelques noyaux, il peut se propager à travers les noyaux de toute une masse d'uranium plus ou moins considérable. Et alors on a eu l'idée que cette réaction pouvait devenir en quelque sorte explosive et mettre en liberté des quantités très considérables d'énergie. Chaque noyau donne une petite quantité d'énergie, mais comme il y a un nombre énorme de noyaux et d'atomes dans toute masse de matière importante, il y a finalement une très grande libération d'énergie.
Voilà, Louis de Broglie sur la RDF en 1945, Camilla Maiani. Pour bien comprendre le phénomène de fission nucléaire, faut aussi faire la différence avec celui de la radioactivité.
Oui, parce que la radioactivité, c'est quelque chose qui se passe spontanément, c'est-à-dire c'est un élément qui se transforme tout doucement, on pourrait dire, hein, selon l'élément plus ou moins vite, de manière spontanée, c'est-à-dire que naturellement, voilà, si vous fouillez et que vous trouvez de l'uranium sous terre, bah forcément, il est en train d'émettre des rayonnements radioactifs à tout moment. On ne peut pas l'arrêter. La fission est quelque chose d'un peu plus radical, qui ne se passe pas en principe spontanément. Si voilà, on bombarde des atomes lourds, il faut des atomes très lourds, instables avec des neutrons, il peut arriver dans les bonnes conditions que ces atomes se cassent en deux. Alors dit comme ça, ça paraît c'est une vraie simplification, mais en gros, très vite... voilà, quand on imagine la fission en 38, 39, on imagine, voilà, il faut trouver les morceaux en fait, hein, c'est comme une assiette qui se casse, il faut les reconnaître et recompter le nombre de protons totaux, et est-ce que ça donne le nombre de protons de l'atome d'uranium ?
Voilà, cette découverte, Brigitte Van Tingelen, à ce moment-là, Otto Hahn et Lise Mettner ne peuvent pas publier ensemble à cause de l'origine juive de Mettner. Donc Otto Hahn et Strachman vont publier en janvier 1938 et l'expérience et l'interprétation que Lise Mettner en a faite.
Oui, donc il y a une... Le duo Meitner-Hahn est mis sous pression à plusieurs égards. Et disons que la pression géopolitique fait qu'il y a une certaine distance, fait aussi qu'une grande partie de leur conversation, de leur correspondance, se fait de manière plus ou moins secrète. Mais il y a aussi une différence, une sorte d'éloignement scientifique qui se creuse, c'est-à-dire entre le chimiste et la physicienne, entre l'allemand et l'apatride réfugiée en Suède. Donc c'est pas seulement la judéité, mais il y a aussi tout un ensemble d'autres facteurs. Donc ce qui les avait rendus complémentaires est soudainement quelque chose qui les rend étrangers, en tout cas sur la scène de la publication scientifique. Otto Hahn publie dans un journal allemand, Die Naturwissenschaften, tandis que, avec son collaborateur Fritz Strassmann, tandis que Lise Meitner publie avec son neveu et collaborateur Otto Fritsch dans le journal Nature. Et je pense que c'est vraiment le début du délitement de la collaboration entre eux, même si ils resteront très corrects l'un vis-à-vis de l'autre, mais c'est vraiment la fin d'une période scientifique pour Lise Meitner et sans doute aussi pour Otto Hahn.
Comment ces découvertes vont-elles être utilisées dans le cadre du projet Manhattan ? Restez avec nous, on y arrive. Well, the teacher says we ought to know all about the atom from a head to toe. Now let us think, what can we say about the tiny little atom as we know it today? We know it's round and full of space, with electrons swinging around the nucleus. The electrons swinging around the nucleus. In the nucleus of the atom, boy, there's fun. Protons are dancing with a neutron. For each little electron swinging in space, you gotta have a proton in the nucleus. The proton's positive, the neutron none. The electron is a negative one. The electron is a negative one. You be my electron every day, and I'll be your proton, what do you say? We'll orbit out on that hardwood floor, and dance all night and dance some more. Listen to me, that rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's going round. Rock'n'roll Atom, en direct sur France Culture, car nous parlons d'une aventurière de l'atome, Lise Mettner. On en parle avec nos deux invités du jour, Camilla Maiani, physicienne responsable de la médiation au musée Curie, et Brigitte Van Tingelen, historienne des sciences, directrice des affaires internationales du Science History Institute, basé à Philadelphie. On vient de voir que le principe de la fission nucléaire n'a été mis en lumière que quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, grâce à la série d'expériences que Lise Mettner a proposé à son collègue Otto Hahn. On a parlé de l'expérience. Camilla Maiani, on peut revenir sur ses interprétations.
Oui, parce que encore dans la dernière publication de Hahn et Strassmann, donc ils acceptent enfin ce qu'ils mesurent, ce sont bien des atomes légers. Eux, ils voient du barium et non pas du radium comme ils avaient imaginé. Donc, ils font la moitié de la taille d'un atome d'uranium, à peu près. Et ce que vont rajouter Lise Meitner et son neveu Otto Fritsch, physicien aussi, c'est une interprétation théorique qui tienne. Alors, c'est les premiers qui mettent le mot « fission » sur ce phénomène-là, hein, qui accepte le fait que le noyau d'uranium a cassé en deux. Il calcule l'énergie dégagée par ce processus. Il revérifie qu'en fait, toute cette aventure des transuraniens, qui a quand même duré 4 ans, correspond parfaitement à ce qu'eux, ils sont en train de voir, et que beaucoup de ces éléments transuraniens, en fait, sont des éléments légers. Et, sauf un, elle le dit. Et ils reprennent un modèle qui était le modèle de Niels Bohr, un très célèbre physicien danois, qui avait proposé pour le noyau atomique le modèle il avait repris l'idée de la goutte d'eau, voilà, qui tient grâce à la tension de surface de la goutte d'eau pour ne pas se casser. Et en fait, eux, ils reprennent ce modèle. Donc un modèle assez simple, et ils expliquent la possibilité de la fission en disant mais en fait, contrairement à une goutte d'eau, un noyau atomique est chargé électriquement. Il est plein de protons, tous positifs, qui se repoussent. Et donc, le moment où le neutron arrive, il perturbe suffisamment la goutte, il l'agite suffisamment pour que deux gros morceaux de noyau, hein, les physiciens qui écoutent m'excuseront, vont s'éloigner et vont se repousser plus fort que les forces nucléaires ne les retiennent. Et donc, c'est ça qui va permettre de casser. Et en fait, par cette explication théorique très élégante, ils convainquent toute la communauté que c'est une possibilité et que c'est ça qu'ils sont en train de voir expérimentalement.
De l'autre côté, on parlait de ces différents clans. De l'autre côté, avril 1939, les Joliot-Curie font aussi une nouvelle découverte. Et puis, pas des moindres, elle est essentielle. Elle ouvre la possibilité de faire une réaction nucléaire en chaîne, Camille Lamagny.
Oui, Frédéric Joliot, donc il s'intéresse à cette aventure tout de suite, hein, dès que la fission est découverte. Et il va travailler avec Lev Kowarski et Hans Alban, donc deux collaborateurs. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est de calculer mathématiquement est-ce qu'une réaction en chaîne est possible et dans quelles conditions. Et ce ne sont pas les seuls, hein, qui sont là-dessus. D'ailleurs, ça va être recalculé par plein d'autres groupes dans le monde, mais ils montrent que dans certaines conditions, cette réaction en chaîne est possible, ce qui est encore en 1939, après la découverte de la fission, n'est pas évident. Il y a d'autres travaux, hein, qui viennent compléter tout ça. Donc, une fission est possible. La réaction en chaîne, donc une série de fissions consécutives, plus ou moins contrôlées, est possible. Mais aussi, comment est-ce qu'on fait fissionner, hein, parce que pour l'instant, on fait ça à l'aveugle. Donc, on va commencer à comprendre, aussi en se basant sur des travaux de Lise Meitner de 34, 35. Bohr va montrer que les neutrons lents font fissionner, enfin, va prévoir théoriquement que les neutrons lents font fissionner un isotope d'uranium, qui est très rare, l'uranium-235. C'est moins de 1% de l'uranium naturel, mais c'est le seul atome d'uranium qui parvient à fissionner avec ces neutrons. Donc, très rapidement, en 1939, on va voir une somme de travaux expérimentaux théoriques qui vont dans le sens, alors, de la bombe, mais il ne faut pas oublier, bon, on a un contexte guerrier, donc la bombe va arriver très vite, mais aussi du réacteur nucléaire, parce que la fission est une source d'énergie.
Côté bombe, Brigitte Van Tingelen, en effet, août 1939, Einstein, qui est un peu lanceur d'alerte, avec sa célèbre lettre qu'il adresse au président américain Roosevelt, on se pose la question de la possibilité d'une bombe atomique, mais il y a encore des éléments de doute sur la fabrication, la possibilité de créer une telle bombe.
Oui, en fait, du concept à l'application technologique de quelque bord qu'elle soit militaire ou pacifiste, il y a toujours beaucoup plus de temps que l'on l'imagine. Et je pense que ça, c'est une règle générale quand on raconte l'histoire des sciences, c'est qu'on pense que quand on a le principe, ben voilà, tout est sous contrôle, si je puis dire, tout roule. Alors que, comme Camilla vient de le rappeler, il y a un nombre très élevé de paramètres qui n'ont pas encore été vraiment étudiés ou contrôlés. Et on sait assez vite qu'il y a cette énorme énergie disponible, pour une bombe ou pour un réacteur nucléaire. On sait que les neutrons sont dégagés et vont pouvoir causer cette réaction en chaîne. Mais sait-on contrôler cette réaction en chaîne, contrôler la dépense, l'énergie qui est évacuée? Et aussi, quels sont les moyens de raffiner? Puisque au départ, on travaille avec de l'uranium, je ne vais pas dire du bête uranium, mais de l'uranium commun, pas l'uranium 235. Et donc, le projet Manhattan, c'est une immense machine qui se met en route dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, avec la crainte que l'ennemi, à ce moment-là, c'est l'Allemagne nazie, que l'ennemi ne construise la bombe, puisque l'Allemagne est un peu le point de départ de la notion de fission. Et ça mobilise non seulement des scientifiques, mais surtout des ingénieurs, des personnes qui vont s'occuper, par exemple, de la production de plutonium, de la production d'uranium enrichi, d'uranium-235, vérifier à quelle vitesse les neutrons et comment canaliser les neutrons pour avoir une masse critique et créer une masse critique pour une bombe. Et tout ça en parallèle d'autres tentatives comme celle d'Enrico Fermi qui avait un réacteur nucléaire, la fameuse pile de Fermi, qu'il arrive à faire fonctionner en 1942. Donc, dès 1942, on sait que c'est possible, mais il y a encore tout le travail de mise à l'échelle qui doit être fait et qui sera vraiment la course du Manhattan Project, qui mobilise aussi des ressources naturelles et de l'uranium qu'il faut acquérir et engranger.
Dans cette course, Brigitte Van Tingelen, en 1943, ce projet secret donc lancé par Robert Oppenheimer, il fait appel au plus brillant cerveau. Lise Meitner est approchée et elle refuse. Elle fait partie des rares scientifiques à avoir quand même refusé de participer au projet Manhattan.
Alors là, tout à fait. Et c'est ce qui m'impressionne le plus, je dirais, dans la personnalité de Lise Meitner, c'est cette fidélité à ses valeurs, qui sont des valeurs humanistes et pacifistes. Donc, elle reconnaissait évidemment la possibilité d'utiliser ça à des fins destructrices, mais elle refuse, quand bien même elle-même a été victime du régime nazi, puisqu'elle a dû fuir au moment où l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Elle, qui était autrichienne, n'a plus de nationalité, ou alors elle a une nationalité allemande qu'elle ne veut pas conserver. Et je voudrais aussi signaler ici qu'elle est une des rares. Après ça, sont célébrés d'autres physiciens ou chimistes qui avaient commencé à travailler au projet Manhattan et qui s'en sont ensuite distanciés au moment où il est apparu clairement, en 1944, que l'Allemagne nazie n'aurait pas la bombe atomique. Mais c'est vraiment une attitude qui vient des circonstances, tandis que chez Lise Meitner, c'est vraiment une décision morale de ne pas participer à la construction d'un engin de mort.
Oui, elle est résolument pacifiste et on peut imaginer sa réaction lorsqu'elle a découvert les attaques d'Hiroshima et de Nagasaki, quand elle a découvert que le projet Manhattan avait permis de transformer ses travaux de fission nucléaire en bombe atomique. Mais pourquoi le grand public en sait si peu sur elle ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Camilla Mayani et Brigitte Van Tingelen, nous parlons de Lise Meitner, cette physicienne chimiste. Le magazine Time la décrivait dans les années 60 comme une pionnière dans la recherche de la bombe atomique. En 1945, le prix Nobel de chimie est attribué à Otto Hahn pour la découverte de la fission des noyaux lourds. Le prix était attribué 3 mois après le largage d'une bombe sur Hiroshima par les Américains. Brigitte Van Tingelen, pourquoi Lise Meitner n'a-t-elle pas été la récipiendaire de ce prix ?
Alors ça, c'est une des grands débats, et je veux dire, c'est presque un débat infini qu'on peut tenir sur les prix Nobel qui n'ont pas été attribués. Lise Meitner n'est pas la seule, mais c'est un exemple particulièrement frappant dans la mesure où ce prix Nobel est attribué après, comme vous le dites si bien, Natacha, après la destruction causée par les deux bombes atomiques larguées sur Nagasaki et Hiroshima, et après aussi la défaite de l'Allemagne nazie. Donc, on peut se demander pourquoi, à ce moment-là, on arrive encore à ne choisir qu'un des protagonistes de la découverte de la fission et que ce protagoniste soit un homme et un Allemand. Alors, quand on regarde dans les nominations, puisque, comme vos auditeurs le savent certainement, c'est l'Académie royale des sciences de Stockholm qui désigne chaque année les prix Nobel. Ils le font sur base de nominations qui sont faites par un certain nombre de personnes. On peut voir lors des nominations que Lise Meitner a été nominée un nombre de fois, mais extrêmement élevé.
49 fois, je lisais.
Oui, 49 fois. Et que pour le prix Nobel de la découverte de la fission nucléaire qui a finalement été attribué à Otto Hahn seulement, elle a été nominée en même temps que lui. Il faut aussi signaler que d'autres ont nominé Strassmann. Donc voilà, la question se pose, comment se fait cette sélection finale? Il faut savoir que la Suède était un pays neutre dans la Deuxième Guerre mondiale, mais que c'était un pays où il y avait beaucoup de germanophilie de manière générale, et aussi à l'Académie royale des sciences de Stockholm, et qu'en plus, certains avaient même des affinités avec le régime nazi. Donc ça, c'est une première chose. De ce fait-là, je dirais que Lise Meitner n'a pas beaucoup pour elle. Elle est une femme, bon, soit, mais elle est juive, même si elle n'est plus pratiquante depuis longtemps et qu'elle s'est convertie au protestantisme. Par ailleurs, il y a aussi le primat, je dirais, de l'expérience sur la théorie. Ça nous paraît étonnant aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du boson de Higgs ou le boson de Brautengler-Higgs, ces noms qui suivent sont le nom des théoriciens qui ont prédit la particule du boson. À l'inverse, à l'époque, c'est le primat de l'expérience, c'est-à-dire celui qui fait la démonstration expérimentale ou l'observation expérimentale qui est considéré comme le découvreur. Donc, proposer une explication théorique ne semble pas nécessairement être aussi important.
Oui, alors que Fritz Strassmann dira lui-même que Lise Meitner était la chef intellectuelle de l'équipe. Une autre anecdote, Camilla Maiani, je découvrais voilà, qu'en 1946, elle assiste à une réception en compagnie du président américain Truman pour célébrer sa nomination comme femme de l'année par le Women's National Press Club de Washington. Et au cours du dîner, Truman se penche vers elle et lui dit « Alors, vous êtes la petite dame responsable de tout ça. » C'est quand même assez éloquent en termes de sexisme ordinaire dans les sciences, non ?
Oui, alors je pense que tous ces argumentaires-là qui sont, enfin que je, avec lesquels je suis 100% d'accord, n'empêchent pas que Lise Meitner, comme Marie Curie, comme Irène Curie, comme beaucoup de femmes, Ida Noddack, etc., ont quand même vécu dans des sociétés beaucoup plus sexistes, en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, dans un milieu scientifique relativement hostile. Pour Lise Meitner, on le disait au début, c'est ce qui est arrivé aussi pour Marie Curie, je pense, c'est qu'on les a acceptées en tant qu'exception, ce qui n'a pas forcément changé les règles pour les autres femmes moins exceptionnelles. Après, on voit quand même, on l'a déjà dit, que Lise Meitner a été extrêmement reconnue de son vivant. Hein, tous les grands scientifiques de l'époque la respectaient, elle avait des correspondances avec Bohr, avec Planck, avec tout le monde en fait. Donc c'était quand même quelqu'un de reconnu, une très grande scientifique de son époque pour tout le monde.
Voilà, et bon, merci en tout cas à vous deux d'avoir participé là encore pendant tout ce direct à créer de la visibilité, de la reconnaissance autour de ce nom et de cette figure historique importante. Tout de suite, on quitte la physique pour l'actualité scientifique, direction le Groenland. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Pourquoi pourquoi la fonte des glaciers s'accélère-t-elle? Ce n'est un secret pour personne. Prenez par exemple le Groenland, qui va nous intéresser aujourd'hui. Sa fonte n'a jamais été aussi rapide. Elle a atteint un nouveau record en mai dernier, avec une vitesse qui a plus que doublé. Toujours côté chiffres, on a du mal à les manipuler, tant ils sont imposants. 600 milliards de tonnes de glace ont fondu à l'été 2019. Bien sûr, une partie se reforme l'hiver, mais plus difficilement. Cela signifie que le front du Groenland, mais aussi de tous les glaciers, recule inexorablement. Les images satellites le montrent très nettement. En revanche, les raisons de cette accélération restent encore mal comprises. Anthony Sladen est chercheur CNRS au laboratoire GéoAzur de l'Université Côte d'Azur.
On a une vision d'ensemble, par exemple avec les données satellitaires, mais on a du mal à aller identifier les processus au plus près de la calotte glaciaire pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que la fonte elle s'accélère plus vite que ce qu'on anticipe avec les modèles qu'on a. Finalement, avec les données satellitaires, ce qu'on voit surtout, c'est la vision du dessus, la vision d'ensemble, mais on a du mal à comprendre ce qui se passe sous la glace. Et ce qu'on soupçonne depuis un moment, c'est qu'il y a des processus qui accélèrent la fonte par le dessous de la banquise. Mais ces processus, ils sont extrêmement compliqués à les identifier parce que c'est un milieu qui est difficile d'accès, qui est dangereux, qui est très froid. Donc il y a plein de contraintes pour aller instrumenter sous la banquise et comprendre au plus près qu'est-ce qui se passe, quels sont les processus à l'œuvre qui font que la banquise fond plus vite que ce que on peut anticiper avec les modèles généraux.
On sait qu'il y a de la fonte sous-marine, on observe également la formation d'icebergs, mais la manière dont ces phénomènes s'articulent restait inconnue. C'est justement ce qu'a exploré cette nouvelle étude parue dans Nature, menée au pied d'un glacier au sud du Groenland. Soyez indulgents sur ma prononciation, c'est l'Ekalorutsit Kangilisermia. S'il a été choisi, c'est parce que c'est l'un des plus grands et des plus actifs de la région. Il est assez accessible et bien équipé en capteurs. C'est idéal pour tester de nouvelles méthodes de suivi de la fonte, comme celle-ci qui fait appel à la fibre optique. C'est exactement la même que vous avez chez vous pour votre box internet, sauf qu'ici, le câble mesure 10 km. Il a été disposé sous le front du glacier et à chaque mètre de câble, on peut capter comment l'environnement perturbe la transmission de la lumière dans la fibre optique.
Ça va perturber localement la propagation de la lumière sur la section de fibre qui est juste à côté. Et ça, on est capable de le mesurer, de le quantifier. Et donc, du coup, ça va nous permettre de détecter toute une série de processus. Et donc ça, c'est un peu la beauté, je trouve, de cette étude. C'est qu'il y a eu plein de développements sur les méthodologies fibre optique. Et là, c'est une des premières expériences où on met en œuvre la fibre optique et on est capable de documenter plein de processus assez divers avec une même instrumentation. Donc on va détecter les changements de température, on va détecter les micro-craquements, le détachement du front du glacier. On va être capable de détecter la propagation de l'onde de tsunami et on va être capable aussi de détecter comment le velage, donc le processus de détachement du front de la banquise, va induire des perturbations dans la colonne d'eau. Et c'est ces perturbations qui vont venir modifier en fait le champ de température sous le glacier et vont permettre à la glace de fondre plus vite que s'il n'y avait pas eu ce processus-là.
En d'autres termes, le détachement d'iceberg, le velage, fait des vagues qui transfèrent par le fond la chaleur vers la base du glacier, ce qui accélère la fonte sous-marine. On a finalement là la réponse à notre question initiale. Si les glaciers fondent plus vite que les modèles, c'est à cause d'un effet boule de neige. La fonte entraîne la formation d'iceberg qui entraîne la fonte et tout s'accélère. On parle de rétroaction. Cette nouvelle étude apporte donc un éclairage sur les dynamiques en présence au niveau de ce front du glacier. L'enjeu est que cela serve pour de futures modélisations plus précises en prenant en compte ce phénomène. Mais l'intérêt tient aussi à la méthode employée. Grâce à la fibre optique, on peut obtenir des informations inédites sur ce qu'il se passe sous les glaciers, mais ce principe pourrait s'appliquer bien au-delà. Des centaines de câbles de ce type sillonnent déjà l'océan pour nos télécommunications. Avec la généralisation de cette technique, on pourrait ainsi suivre la température des fonds marins, mais aussi détecter des séismes, des glissements, de la pollution sonore, ou même écouter le chant des baleines.
Merci Alexandra pour votre chronique. Grande nouveauté de cette nouvelle saison sur France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité, philo, éco, histoire, gastronomie et science bien sûr. En 3 minutes 30, du lundi au dimanche, les meilleurs experts
tirent leur fil d'Ariane pour mettre notre monde en perspective. Et tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Digérer le lait à l'âge adulte, c'est une anomalie, vous le savez peut-être vous-même. La biologie génétique peut vous aider à y voir plus clair. Mais qu'est-ce que digérer le lait ? Eh bien, d'un point de vue biologique, il s'agit de casser le sucre du lait, c'est-à-dire le lactose, en plus petits sucres, le glucose et le galactose que notre organisme peut ingérer. Et c'est une enzyme, la lactase, qui permet de casser ce gros sucre qu'est la molécule de lactose. La lactase est produite dans votre intestin grêle. Cette lactase fonctionne chez tous les bébés mammifères. Ils peuvent tous digérer le lait de leur mère. Ils cassent le lactose avec leur lactase. Mais cette lactase devient inactive au sevrage. Après, on ne peut plus digérer le lait. Le veau digère le lait, mais pas la vache. Pareil pour le chaton, qui digère le lait, mais pas le chat. Et chez les humains, c'est pareil. Les adultes ont une lactase inactive, sauf dans certaines populations humaines. Dès les années 70, des anthropologues constatent que des adultes continuent de digérer le lait. Ils ont une forme de lactase qui reste active à l'âge adulte. Et ils ont remarqué cela chez des populations d'éleveurs de bétail qui ont une forte consommation de lait. Comment expliquer cela ? Il faut attendre les années 2000 pour que la mutation génétique qui permet de laisser cette lactase active à l'âge adulte soit détectée. Cette mutation, qui était rare dans le passé, a augmenté fortement en fréquence en quelques milliers d'années, qui coïncide avec le début de l'élevage entre 6000 et 8000 ans. Désormais, on peut écrire le scénario. Des mutations qui permettent aux adultes de digérer le lait, c'est-à-dire d'avoir encore une lactase active à l'âge adulte, ont existé, produites par le hasard des mutations. Puis, dans certains endroits du monde, les humains se sont mis à l'élevage des animaux et à consommer beaucoup de lait frais. Les rares individus qui portaient la mutation ont été avantagés biologiquement. Ils ont mieux survécu ou se sont mieux reproduits. La mutation qu'ils portaient s'est transmise de génération en génération à leurs descendants jusqu'à nos jours. Et dans ces populations, presque tous sont maintenant porteurs de cette mutation avantageuse dans ce nouveau mode de vie. Par exemple, plus de 95% des Européens du Nord sont des adultes digéreurs de lait. Et à l'inverse, en Chine, c'est moins de 5% de la population. D'autres populations d'éleveurs se sont adaptées différemment en produisant des produits fermentés comme le koumis en Asie centrale ou encore le fromage. Et dans ce cas, les organismes qui produisent la fermentation ou le fromage cassent en grande partie le lactose. Ainsi, pas besoin de lactase. La digestion du lait chez les adultes est donc un bon exemple de l'impact que peut avoir la culture sur notre évolution. Des groupes humains changent leur mode de vie, de chasseurs-cueilleurs, ils deviennent éleveurs de bétail. Ce changement culturel entraîne une nouvelle alimentation. Des mutations deviennent avantageuses, ici celles qui permettent de digérer le lait en tant qu'adulte. Ainsi, à travers cet exemple, l'évolution biologique se rappelle à nous. Ce n'est pas parce que l'humain est un être imprégné de culture qu'il crée et transmet, la culture ne prend pas le pas sur l'évolution biologique. Les deux interagissent. Nous sommes bien des êtres 100% culturels, 100% biologiques.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science que l'on retrouvera mercredi prochain. Et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Joseph Schlegel. Merci à Anne-Lise Signoret, à la documentation, à la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.